Eh bien, bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse, ça va? Vous allez bien? C'est bien, gloire à Dieu. Ben moi aussi, ça va bien, par la grâce de Dieu. Et c'est le dernier dimanche de cette année 2015. On est bien content qu'elle s'arrête. On est bien content. Est-ce que vous êtes content ce matin qu'elle s'arrête cette année? Oui. Bon, on ne sait pas si 2016 sera mieux. Mais on va tout faire pour qu'elle soit mieux. Amen. En tout cas, vraiment... Quelle année, quelle année. Bien, je vous invite à lire Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est parce que vous manquez de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Quelle sorte de démon? Le démon d'incrédulité, pas le démon qui était dans l'enfant. N'est-ce pas? Ils avaient emmené un enfant à Jésus et puis les disciples n'avaient pas réussi à chasser, n'est-ce pas, le démon qui était dans l'enfant. Et beaucoup pensent que voilà, il y a des démons qui sont dans les gens, qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Non, 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 non. Jésus est en train de parler de l'incrédulité de ses disciples. Il leur dit, c'est cette sorte de démon qui sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte de démon d'incrédulité que vous avez. Hein? C'est ça qu'il est en train de leur dire. Non, mais accuser les malades de manquer de foi et puis de dire qu'il faut qu'on jeûne pour qu'ils... C'est infernal de dire des choses comme ça. Non, non, non. C'est ceux qui prient pour les malades qui doivent, s'ils n'ont pas assez de foi, jeûner et prier pour chasser leurs démons d'incrédulité. Ça, c'est dit. Amen. Quelle est cette foi qui nous rend capables de transporter des montagnes? Et est-ce que Jésus souhaitait vraiment que ses disciples soient capables de tels exploits? Alors, mes frères et sœurs, je crois qu'on doit laisser les montagnes là où elles sont. Je trouve que ça serait très dommage que tous les chrétiens un petit peu zinzin se mettent à déplacer le bon Cervin pour le mettre en France, ou je ne sais pas quelle idiotie, n'est-ce pas, il pourrait leur passer par la tête. Non, le Cervin, il est bien là où il est. Laissons le Mont Blanc là où il est, laissons l'Everest. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça dont Jésus nous parle. D'ailleurs, Jésus n'a jamais cherché à changer les montagnes d'Israël de place. Il a fait des tas de choses, mais pas ça. Il n'a pas changé les montagnes de place. C'est dans la tête, c'est dans le cœur que Jésus dit qu'il faut que nous déplacions les montagnes. Voilà la réalité. Les montagnes que Jésus nous demande de déplacer sont des montagnes intérieures, des montagnes psychiques, des montagnes intérieures. Tous les obstacles que nous avons laissés s'entassent en nous. Voilà les montagnes qui obstruent notre chemin. D'abord, ça commence par un petit caillou. Un petit caillou d'incrédulité, ou un petit caillou de jalousie, ou un petit caillou de bêtise, ou un petit caillou de je ne sais quoi. Et puis ça amoncelle, et puis ça devient une montagne. Voilà la sorte de montagne qui obstrue notre chemin, qui nous empêche d'avancer. Je suis sûr que le Seigneur va venir cette parole dans vos cœurs et que ça va vous aider à comprendre des choses. En tout cas là, c'est ce que j'ai prié pour vous ce matin. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? On va lire un autre texte. On va lire un autre texte dans Matthieu 13, verset 31. Alors, Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Je vous ai déjà souvent prêché sur ce texte, mais je vais vous l'enseigner d'une façon différente aujourd'hui. Différente aujourd'hui. Alors ne dites pas, ah, Michel, il se contredit. Non, je ne me contredis pas. Chaque parabole a plusieurs interprétations possibles. Et comme chaque prophétie, il y a plusieurs possibilités de réalisation. Alors voilà le secret. Le grain de sénevé ou de moutarde, c'est minuscule. Mais... qu'est-ce qu'on fait avec cette graine? On la sème. Et une fois qu'elle est mise en terre, elle ne reste pas inactive. Si ce grain est sain, s'il est de bonne qualité, il va germer, il va pousser et devenir un arbre. Mais pas d'un seul coup. Il faut du temps. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Vous avez vu déjà? Oui, moi j'ai vu un dessin animé comme ça, où il y a quelqu'un qui jette un grain d'haricot dans la terre et ça pousse. Ça, c'est chez Mickey, ça. Hein? Jésus n'est pas contre les lois de la nature. Et quand il parle de grain qu'on sème et qui devient un arbre, c'est pas d'un coup. C'est dommage, mais c'est comme ça. Jésus a parlé de la foi en la comparant à une graine. Et il a fait exprès pour qu'on comprenne bien. Il nous faut donc comprendre, réfléchir sur la nature et sur la propriété des graines. Voilà la foi d'un homme, une foi grosse comme un grain de moutarde ou de sénévé. Et cet homme, une fois qu'il a semé ce grain dans son cœur, il pourra transporter des montagnes. Une foi semée dans son cœur, dans son âme, dans son intellect, vous voyez, on y revient toujours, la force, c'est-à-dire son esprit, la vie, fera croître ce grain et il va se développer. Et le jour où il devient un arbre, Jésus nous dit les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les entités lumineuses du monde angélique, du monde invisible, les anges, vont venir l'habiter. Et les anges, ils ne viennent pas les mains vides, les anges, ils apportent toutes sortes de présents du ciel. Ils apportent l'amour, ils apportent la sagesse, ils apportent la pureté, ils apportent la paix, ils apportent la bienveillance. Voilà, ça c'est leur travail, ils sont des êtres au service de Dieu et au service des enfants de Dieu. Et c'est grâce à ces présents que l'homme arrivera à transporter des montagnes, c'est-à-dire que tous les pouvoirs lui seront alors donnés, mais des pouvoirs sur lui-même d'abord. J'en reviens au début de ce que je disais. C'est des montagnes intérieures. Mes frères et sœurs, tant que on n'essayera pas de comprendre par quel processus la foi est capable de transporter des montagnes, eh bien on se contentera de répéter des mots vides de sens et vides de puissance. Et ça devient des vaines redites. Je puis tout par celui qui me fortifie, nanana, nanana, nanana. Mais on ne comprend pas le processus, si on ne comprend pas, on peut pas, ça ne peut pas se manifester. Le Seigneur est clair, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, qu'on comprend la parole de Dieu. La chair est tellement faible, mes frères et sœurs, c'est tellement faible. L'homme est si chancelant. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va pouvoir déplacer des montagnes? C'est tout bonnement impossible. Alors, par l'incompréhension, par la négligence, par le manque de réflexion, et surtout, surtout par la paresse, on laisse de côté l'enseignement de Jésus, vraiment par la paresse. Les gens ne se donnent pas même la peine de lire leur Bible. Hein, on connaît une pastoresse ici, pas loin, qui était nommée par prophétie, elle ne lit jamais sa Bible. Même pas ça, elle a dit. Eh ben mon Dieu. Eh bien, par paresse, je pense que vous avez tous fait cette expérience avec des graines. Moi, j'ai été faire ça. Hein. J'ai été acheter des petits sachets de graines et puis je les ai semés. Et quand on a les sachets de graines et puis qu'on les sème, qu'est-ce qui se passe? On peut être sûr, sans jamais se tromper, qu'ici, ça va être des salades, là, ça va être des radis, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça va se vérifier dans l'expérience et il n'y a rien de magique là-dedans, c'était écrit sur le sachet. C'est juste que vous avez une connaissance, grâce à ce qui est écrit sur le sachet, que cette graine, c'est une graine de machin et que l'autre, c'est une graine de truc ou de chose. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Et puis voilà, c'est tout. Il faut de la connaissance. Pour beaucoup de gens, ils s'attendent à récolter alors qu'ils n'ont rien semé. Et puis vous en avez qui sont encore plus bêtes, ils s'attendent à récolter des poireaux alors qu'ils ont semé des carottes. On sème les carottes? Je ne sais pas trop, mais enfin bon. Je ne suis pas trop paysan, moi. Hein. Alors, ils attendent des choses qui sont irréalistes. Parce qu'ils n'ont ni savoir, ni expérience. On ne peut récolter que ce qu'on a semé. Quand on sème en respectant les règles, on peut être sûr que ce que on récoltera, on peut savoir la nature de ce qu'on récoltera d'une façon certaine. On n'est pas des inertskistes. On peut être sûr que c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dedans, écrit dessus, sur le sachet, dans la parole de Dieu. C'est écrit, c'est des semences de ceci, c'est des semences de cela. Si c'est écrit, nul ne sait ni le jour ni l'heure, on ne peut pas dire voilà l'heure et voilà le jour. Parce que c'est écrit sur le sachet qu'on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure. Vous comprenez ce que je dis là, mes frères et sœurs ? C'est tout simple. Et c'est dans la nature qu'on observe cela, c'est pourquoi Jésus nous parle de la nature, des semences. En Afrique, les gens n'ont pas, comme chez nous, des scanners à tous les coins de rue, des possibilités de se soigner, ils sont abandonnés. Il y a quelques dispensaires en brousse, des hôpitaux où je ne veux même pas faire soigner mon chien tellement que c'est sale. C'est effrayant, moi j'ai vu, je sais, Robert aussi, t'as vu, hein, les, ceux qui sont venus avec moi, les Jacques aussi, vous avez vu, c'est effrayant, il faut aller, c'est comme ils appellent, dans l'hôpital des Blancs, là ça va. Mais autrement, c'est épouvantable, et encore. Donc les gens, quand je vais en Afrique, ils s'attendent à des miracles, pourquoi ? Parce que ils me connaissent. Alors qu'est-ce que je vais semer quand je vais en Afrique ? Des enseignements sur la culpabilité ? Qu'est-ce que je vais semer ? Des enseignements sur les sept trompettes ? Ou sur le quatrième son à bout filtre, ou que sais-je ? Non. Si je veux récolter des guérisons, je sème des semences de guérison. Et une fois que les guérisons ont eu lieu, les gens croient en moi, et après je peux leur parler des sept sceaux, et des quatre tonnerres, ou des cinq ou six tonnerres, tout ce que vous voulez, parce qu'ils me croient, parce qu'ils ont vu des miracles. Autrement, c'est un enseignement, ils disent « Ah, bravo, qu'est-ce qu'il en connaît, il y en a dans la tête, hein ?» Mais Jésus faisait toujours des miracles pour attirer l'attention sur lui, et ça le rendait crédible, et les gens le croyaient à cause de ça. Donc, si je veux récolter des guérisons, je sème des semences de guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus allait partout pour détruire les œuvres du diable, guérissant les malades. Ah, donc les malades, c'est le diable qui les rend malades. Oui, c'est pas Dieu qui rend les gens malades, c'est le diable. Et Jésus faisait les œuvres de Dieu en détruisant les œuvres du diable. Alors là, je suis venu pour prier pour vous afin de détruire les œuvres du diable, parce qu'il a dit, tout ce que j'ai fait, vous pourrez le faire aussi, et je vais le faire aujourd'hui en son nom, au nom de Jésus-Christ. Partout où il allait, il guérissait tous les malades, pas seulement certains, mais tous les malades. Donc vous êtes une personne, donc vous pouvez être guéri. Si seulement tu crois, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il fera aujourd'hui ce qu'il faisait autrefois, parce qu'il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est sa volonté. Si ce n'est pas la volonté de Dieu de vous guérir, voilà le genre de choses que je sème. Si ce n'est pas la volonté de Dieu de vous guérir, alors restez malade. Ne cherchez surtout pas à aller contre la volonté de Dieu. Restez malade. Si c'est Dieu qui veut que vous soyez malade, surtout n'essayez pas de vous soigner. Restez malade. Si c'est Dieu qui vous a donné une maladie, alors réjouissez-vous avec cette bonne maladie, cadeau de Dieu, que Dieu dans sa bonté vous a faite, n'est-ce pas ? Hein, voilà ce que je sais. Et si la maladie, c'est la volonté de Dieu pour vous, alors chaque médecin est une personne qui lutte contre la volonté de Dieu. C'est des suppôts du diable, hein? Chaque infirmière, alors, défie le Tout-Puissant. Et tout hôpital est un repère de rébellion plutôt qu'un centre de miséricorde. Voilà ce que je leur dis pour leur faire comprendre que la volonté de Dieu, c'est de guérir et que c'est bon. Amen. Dieu veut vous guérir, vous, parce qu'il dit qu'il est venu pour pardonner tous vos péchés et vous guérir de toutes vos maladies. Voilà, je sème cette sorte de semence et je sais que je vais récolter la nature de la semence que j'ai semée. C'est le secret du ministère miracle. C'est tout. C'est tout, c'est que ça. Vous allez me dire, ah bon, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mes frères et sœurs, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on... Si on place en soi de mauvaises semences, on va récolter de mauvaises récoltes. Si on sème en soi des choses dont on n'a pas besoin, on va récolter en soi, dans notre vie, des choses dont on n'a pas besoin. Écoutez bien ce que je dis là ce matin, c'est très important. Tous les chrétiens ont accepté pour eux-mêmes que Jésus a pardonné tous leurs péchés. Est-ce que vous croyez que Jésus a pardonné tous vos péchés? Levez la main. Bien. Par contre, ils jugent leurs frères et sœurs parce qu'ils ne croient pas que Jésus a aussi pardonné tous leurs péchés, tous les péchés de leurs frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que Jésus a pardonné les péchés de ceux qui vous embêtent là? Levez la main si vous le croyez. Voilà, ce sont des gens autant pardonnés que vous. Et comme ils ne croient pas que Jésus a pardonné les péchés des autres, alors c'est de là que viennent tous les problèmes. Ils ont en eux des semences de jugement. Ils ont en eux des semences de condamnation à l'égard de leurs frères et sœurs. Ah oui, Jésus est celui qui a pardonné tous mes péchés, mais ils oublient qu'il a pardonné aussi les péchés de tous les autres qui se sont humiliés, qui sont venus devant Dieu, qui ont invoqué son nom. Et qu'est-ce que ça produit, ça, dans leur cœur? De l'amertume. Et finalement, ça produit même du péché. Ça produit, le mot péché, ça veut dire erreur, manquer le but. Ça produit de l'erreur dans leur propre cœur, dans leur propre vie. Ils vont manquer le but. Et c'est un cercle sans fin qui est dû quoi? À l'ignorance de la loi de la semence et de la moisson. Mais mes frères et sœurs, le problème vient de ce que chacun a la semence de foi pour son pardon personnel, mais pas pour le pardon des autres. La même semence de pardon, ils ne croient pas qu'elle est bonne aussi pour les autres. C'est quand même incroyable. Il faut être méchant pour faire ça. Pourquoi? Moi, je suis pardonné, mais toi, non. Je t'ai à l'œil. Les semences que vous acceptez comme bonnes pour vous, vous êtes tenu de les croire bonnes pour les autres. Allez, on me donne un amen.
Amen.
Amen. Je vous ai toujours enseigné ces choses. On dirait qu'ils n'ont jamais rien écouté. Il y en a qui dormaient, je les voyais dormir. Mais il y en a, ils ne dormaient pas, ils avaient la bouche ouverte. Et je croyais qu'ils écoutaient, mais non, ils n'écoutaient pas. Ils pensaient aux raviolis qu'ils allaient bouffer à midi. Hein, ce n'est pas possible. Depuis le temps que j'enseigne ces choses, comment se fait-il? Ce n'est pas mon fruit. Mes frères et sœurs, ce n'est pas mon fruit. Ce que j'ai semé, ils ne l'ont pas reçu. Parce que ce qu'ils produisent, ce n'est pas mon fruit. Je suis désolé. Je vous ai toujours enseigné ces choses. Et par exemple, dans notre communauté, j'ai toujours été tolérant. Je n'ai pas seulement enseigné, j'ai montré avec tous ceux qui ne croyaient pas comme moi. Je les ai laissés prêcher, je les ai laissés enseigner. Je suis parti des semaines en leur laissant l'église, en leur laissant faire comme ils l'entendaient, leur disant pas, tiens, tu dois prêcher ceci ou tu dois prêcher cela. Je leur faisais confiance. J'ai toujours été tolérant parce que les semences de pardon et de miséricorde que Dieu a proposé pour ma vie, je les acceptais également pour bonnes dans leur vie. J'ai non seulement enseigné, mais j'ai vécu ce que j'ai enseigné. Alors, passons à autre chose. Regardez une chose très importante, parce que ça va vous expliquer des choses très, 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 très importantes. Nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas protestants. Nous ne sommes plus évangéliques. Nous sommes des simples chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Mais nous venons de toutes ces choses-là, du catholicisme est sorti le protestantisme, du protestantisme est sorti les évangéliques, les pentecôtistes et toutes ces choses-là, donc on vient de tout ça. Et je voudrais vous lire un extrait d'un livre au sujet du réformateur Calvin. Écoutez bien, c'est un extrait d'un bouquin, si vous voulez, vous m'écrivez, je vous donnerai le nom du bouquin. Le titre c'est « Post tenebras lux », c'est-à-dire « Après les ténèbres, la lumière ». C'est écrit même là sur ma Bible, la nouvelle Bible Archéos, ils ont écrit là, Post Tenebras Lux, c'est-à-dire après les ténèbres, la lumière. Alors voilà, c'est une femme qui écrit et qui dit, « Je suis à Genève, devant l'ancien mur de la ville, un monument de 100 mètres de largeur. » Je l'ai vu, plusieurs d'entre nous, vous l'avez vu ce mur, on l'appelle le mur de la Réforme. Donc elle dit, je suis venue ici à Genève devant l'ancien mur de la ville, un monument de 100 mètres de largeur, avec les statues imposantes de quatre hommes flanquées d'autres statues plus petites. L'un d'eux se détache des autres, il a la tête couverte, une longue barbe, et il tient dans ses mains ce qui à son époque était plus puissant qu'une mitrailleuse, la Bible. Tandis que j'observe, je pense, si cet homme, au milieu, là, était né de nos jours, tous, surtout les Français et les catholiques du monde entier, l'appelleraient terroriste. Ses tactiques pour implanter ce qu'il imaginait être la vérité suprême me le font associer à l'esprit perverti d'Oussama Ben Laden. Tous les deux avaient le même objectif, installer un état théocratique dans lequel tous ceux qui n'accompliraient pas ce qui se comprenait comme une loi de Dieu devaient être punis. Et aucun des deux n'a hésité, donc ni Calvin ni Ben Laden, aucun des deux n'a hésité avant de recourir à la terreur pour atteindre ses objectifs. Ils n'ont pas reculé, ils ont opté pour la terreur. Jean Calvin est son nom, et Genève a été son champ d'opération. Des centaines de personnes allaient être condamnées à mort et exécutées près d'ici. Non seulement les catholiques qui osaient garder leur foi, mais aussi des savants qui, en quête de la vérité et de la guérison des malades, défiaient l'interprétation littérale de la Bible. Vous savez que la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ils disaient, on n'a pas le droit, les catholiques, et lui aussi, disaient, on n'a pas le droit d'ouvrir le temple du Saint-Esprit. C'est un mystère dedans, donc interdit de faire des opérations. Et lui, là, c'est... Alors, le cas le plus célèbre est celui de Michel Servet, qui était un homme qui n'était pas trinitaire, il était comme nous. Le cas le plus célèbre est celui de Michel Servet, qui découvrit la circulation pulmonaire et mourut sur le bûcher pour cette raison. Alors, voilà comment il pensait dans sa tête, Calvin, et puis comment il écrivait, parce que ça, c'est un écrit de lui. Il écrivait... Il n'est pas injuste de punir les hérétiques et les blasphémateurs. Ainsi, nous ne nous transformons pas en complices de leurs crimes. Il ne s'agit pas ici de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle. Par conséquent, si Dieu exige de nous quelque chose, une gravité aussi extrême, c'est afin que nous montrions que nous lui rendons l'honneur qui lui est dû en établissant son service au-dessus de toute considération humaine, que nous n'épargnions pas nos parents, ni aucun sang, et que nous oublions toute l'humanité quant au sujet, quand le sujet est le combat pour sa gloire. Il tuait en pensant rendre gloire à Dieu. Et ce bougre de crétin était sincère. La destruction et la mort ne se limitèrent pas à Genève. Les apôtres, les envoyés de Calvin, représentés par les statues plus petites de ce monument, répandirent sa parole et son intolérance dans toute l'Europe. En 1566, plusieurs églises furent détruites en Hollande et des rebelles, c'est-à-dire des personnes d'une foi différente, furent assassinées. Une quantité immense d'œuvres d'art furent jetées au bûcher sous prétexte d'idolâtrie. Ça ne vous rappelle rien ? Une partie du patrimoine historique et culturel du monde fut détruite et perdue à tout jamais. Et aujourd'hui, cette femme écrit, « Mes fils étudient Calvin à l'école, comme s'il était le grand illuminé, l'homme aux idées nouvelles, qui nous a libérés du joug catholique, un révolutionnaire qui mérite d'être révéré par les générations suivantes. Après les ténèbres, la lumière. » Que se passait-il dans la tête de cet homme, me demandai-je. A-t-il eu des nuits d'insomnie en sachant que des familles étaient décimées, que des enfants étaient séparés de leurs parents et que le sang inondait la chaussée? Ou était-il tellement convaincu de sa mission qu'il n'y avait plus de place pour les doutes? Pensait-il que tout ce qu'il faisait pouvait être justifié au nom de l'amour? Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Des dépositions de personnes qui l'avaient connu disaient que, dans l'intimité, Calvin était un brave homme, capable de suivre les paroles de Jésus et d'avoir de surprenants gestes d'humilité. Il était craint et aussi aimé. Il pouvait enflammer les foules avec cet amour. Comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, personne ne se souvient plus de ses atrocités. De nos jours, il est vu comme le médecin des âmes, le grand réformateur, celui qui nous a sauvés de l'hérésie catholique avec ses anges, ses saints, sa Vierge, son or, son argent, ses indulgences et sa corruption. Alors la question est, comment lisez-vous l'histoire de votre vie? Vous vous croyez pardonné? C'est bien. Vous ne croyez pas que Dieu m'a pardonné? Vous avez tout faux. Et votre vie va produire selon cette semence qui est en vous, c'est-à-dire du faux. La foi et le succès, ça marche ensemble. Et quand je dis succès, je veux dire la victoire sur nos difficultés à nous-mêmes et sur nos obstacles internes personnels. La graine de la foi, on finit toujours par la reconnaître au fruit qu'elle porte, et le grain de la croyance ou de la superstition aussi. Et voilà pourquoi, malgré la puissance de Jésus, malgré son amour, malgré sa sagesse, les chrétiens n'ont pas transporté beaucoup de montagnes. Et non seulement ils n'en ont pas beaucoup transporté, mais ils se sont ensevelis dessous, en chantant des cantiques. Sur ton trône élevé, poilonné. Eh oui, et puis en devenant de plus en plus amer. Vous connaissez cette sorte de personne? La foi s'accompagne d'un travail de longue haleine, mes frères et sœurs. La foi, c'est la cristallisation d'un savoir. Elle est fondée sur la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, non pas par un esprit de folie comme ça. C'est-à-dire sur le vécu de l'expérience du monde divin. Pas sur la parole écrite seulement. Parce que la lettre peut tuer, comme les catholiques pendant l'Inquisition, comme les calvinistes en leur temps. Le grand problème avec ces ayatollahs chrétiens, c'est que leur enseignement fait plus de tort que de bien. Parce que ils font de la vérité une philosophie absolue, une doctrine absolue. Vous avez vu, je vous ai prêché sur les oiseaux qui viennent dans l'arbre d'une manière, il y a quelques mois, et aujourd'hui je vous prêche d'une autre. Il n'y a pas d'absolu. Il n'y a que Dieu qui soit absolu. La lettre ne l'est pas. Alors, l'intention du Seigneur, ce n'était pas du tout ça. L'intention du Seigneur, c'était de nous parler personnellement pour que nous réglions nos problèmes personnels, afin que nous puissions avoir une bonne relation avec les autres. Voilà, c'est tout. Ils ont raison et vous avez tort. Donc, vous avez un démon. Donc, vous êtes hérétique. Donc, vous avez besoin d'exorcisme. Vous voyez ? On connaît ça, hein ? Et heureusement que la loi française leur interdit de nous brûler sur le bûcher, parce que sinon ça ferait une année et demie que je serais plus qu'un petit tas de cendres de rien du tout. En tout cas, nous tous ici, certainement dans la communauté, parce que vous auriez pas, vous auriez aussi marché dans mon sens, vous les fidèles. Si ces personnes ne font rien pour changer, elles souffriront longtemps et de plus en plus. Et ça, ce n'est pas une prophétie ignersquiste. Hein. Elle va se vérifier dans le temps. Parce qu'ils récolteront, ces gens-là, ce qu'ils ont semé, ils le récolteront de plus en plus, de façon exponentielle. Tout le monde doit travailler ce qu'il a reçu. Alors qu'il ne s'imagine pas qu'en ne faisant rien, on peut avoir une foi qui transporte les montagnes. La foi est le résultat d'efforts répétés jour après jour. Elle est quelque chose de vivant, que nous ne devons jamais séparer de notre vie au quotidien. Quelle sorte de foi? La foi que Dieu t'a pardonné autant que moi. Déjà commencer par là. Voilà ce qui nous fait comprendre, ce qu'il faut absolument qu'on comprenne pour pouvoir déchiffrer le sens des paroles de Jésus sur le grain de sénevé. Sinon, eh bien, on l'interprète de manière... Dieu est tout-puissant, il peut faire des miracles jusqu'à transporter des montagnes. Au nom de Jésus, je chasse cette montagne de difficultés. C'est vrai aussi. Mais dans la profondeur, c'est ça la vérité. Alors, ne soyez pas stupides. Écoutez bien. Vous pouvez transporter des montagnes. Oui, vous pouvez. Mais pas en une seule fois. Pas en une seule fois. Mais une pierre après l'autre. C'est ce que vous et moi, nous faisons depuis des années, et en particulier depuis un an et demi. Et en ce moment, elle bouge cette montagne. Amen.
Amen.
Elle bouge cette montagne. Chaque pierre déplacée augmente notre foi parce que nous la sentons plus solide. Nous sentons, pas la montagne, mais notre foi, nous la sentons plus solide. Nous devenons plus maîtres de la situation et on voit l'horizon qui se dégage devant nous puisque pierre par pierre, nous enlevons, nous débarrassons. Et il se peut que déjà, la moitié du travail entrepris, notre foi soit devenue si forte que nous pourrons transporter le reste d'un seul coup. Amen.
Amen.
C'est ça. Et puis, quand Jésus parlait, il parlait à ses disciples. Il savait très bien que ses disciples vivaient avec lui en communauté et qu'ils continueraient à vivre avec lui en communauté, avec le Saint-Esprit, les frères et sœurs, tous ensemble. Alors, pour transporter une montagne, on peut prendre l'exemple de ces hommes, mais aussi des fourmis. Bonjour Bernard Werber. Les fourmis, elles arrivent en peu de temps à transporter des véritables montagnes de nourriture qui, pour elles, proportionnellement, sont des montagnes. C'est des montagnes pour elles. Comment est-ce qu'elles font? Eh bien, elles ne travaillent pas toutes seules. Elles ne travaillent pas toutes seules. C'est ensemble qu'elles se mettent à la tâche. Intelligemment. Dans l'isolement et dans l'égoïsme, on ne transportera jamais de montagnes. Si de grandes montagnes, si de grandes choses ont été réalisées au cours de l'histoire, si de grandes choses ont été réalisées au cours de l'histoire profane ou chrétienne, ou peu importe, scientifique, tout ce que vous voulez, c'est parce que des hommes et des femmes se sont réunis pour travailler ensemble. Ça, c'est la vérité. Et pour les disciples de Jésus-Christ, transporter les montagnes, ça signifie faire tomber les obstacles qui s'opposent à la venue du royaume de Dieu. Ensemble, tous ensemble, unis pour vivre ensemble, ensemble, tous ensemble, Dieu, tu nous as unis pour vivre ensemble, mais pas juste pour bouffer ensemble, pour faire des choses, pour travailler, pour agir efficacement ensemble. Amen.
Amen.
Que Dieu soit béni. Jésus, je te demande de bénir cette prédication dans le cœur de chacun et de chacune. Je te prie, Seigneur, que ceux qui ne nous aiment pas soient poussés par toi afin de venir écouter ce dernier message de l'année et que ton esprit leur montre la vérité et qu'ils auraient intérêt à changer d'attitude. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci, mon Dieu, de garder tous nos frères et sœurs qui nous aiment et qui sont patients avec nous et qui luttent avec nous. Merci, Jésus. Sois glorifié. Je te prie que nous puissions terminer bien cette année 2015 et que nous puissions commencer bien cette année 2016. Je te prie, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite par nous. Non pas comme ça d'une façon, voilà, mais qu'elle soit faite par nous, par chacun d'entre nous personnellement, que nous fassions ta volonté, et qu'ainsi ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
Ça va? Ça vous a parlé ce matin?
Oui,
moi aussi, quand j'ai préparé, ça m'a beaucoup parlé. Dieu vous bénisse. Amen.